Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. Si tu aimes l'émission de l'Instant Vertical, si tu aimes ce podcast, je t'invite à venir me soutenir via des dons financiers sur la plateforme Tipeee afin que la qualité et les sujets puissent perdurer. Tu trouveras toutes les infos en description. Si le cœur t'en dit, c'est le bienvenu. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour, bienvenue sur l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Nelly Dipti. Salut Nelly.
Salut Benjamin.
Alors là, tu es en voyage en Inde, donc on entend bien les oiseaux et le vent derrière toi. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble un épisode sur la voie de la dévotion. Tu es en Inde parce que tu es actuellement chez Amma et tu avais envie d'avoir un partage sur la dévotion. C'est ça?
Oui, comme tu proposais des sessions sur les voies directes, ça me semblait évident pour moi, en tout cas. Ce qui résonne dans mon cœur, c'est la voie de la dévotion qui ouvre le cœur et qui permet de trouver cet amour.
Ça marche. Et je te présente en quelques mots, tu complètes si besoin. Du coup, on va utiliser un gros mot, mais tu es une dévote d'Amma. C'est toi qui l'as dit, donc je peux le dire. Tu es une dévote d'Amma. Et voilà, tu suis la voie de l'amour selon la voie d'Amma. De rentrer dans une expérience directe d'amour, du concret. Donc, en ça, c'est vraiment la voie de la dévotion. Et d'ailleurs, ton nom, Nelly Dipti, c'est ton nom en tant que dévote d'Amma. Ça va? Tu veux rajouter quelque chose?
C'est parfait.
Ça veut dire quoi, Dipti?
Dipti, c'est la lumière, en fait. Dipika, c'est la lumière qu'on allume le soir au crépuscule pour montrer justement la lumière de la conscience qui chasse les ténèbres, en fait. Et on l'allume et on fait des rituels comme ça le soir à la tombée de la nuit. Et donc voilà, Dipti, c'est cette lumière qui brille dans l'obscurité.
D'accord. Alors, première question pour aborder cet épisode sur la voie de la dévotion. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la dévotion? Qu'est-ce que c'est la dévotion?
La dévotion, c'est ça, c'est l'expérience directe de l'amour. Et en effet, dans la voie non duelle, ça peut paraître un peu complexe, parce que la dévotion, ça veut dire la dévotion vers quelque chose. Donc, on croit qu'on s'éloigne de l'unité, mais en fait, c'est pour mieux retrouver cette unité. D'ailleurs, Amma, elle parle de ça dans ses enseignements. Elle dit qu'au début, le mental, il peut pas imaginer Dieu, il peut pas imaginer le sans-forme, il peut pas imaginer l'absolu. Le mental, il a besoin d'un support concret au début qui lui parle pour arriver petit à petit à accéder à la subtilité de l'être, du soi. Donc ça passe, ça peut passer au début par un gourou, encore un autre gros mot, un gourou extérieur, un maître ou une divinité pour développer donc les qualités du cœur comme ça et pouvoir rendre vraiment tangible l'expérience de cet absolu, de cette chose qu'on a du mal à expliquer, qu'il n'y a pas de mots pour cerner. C'est pour ça il faut passer des fois par un chemin concret pour arriver à l'absolu.
Comme si l'expérience directe de l'amour, c'était le chemin concret pour aller goûter, même si l'amour est sans forme comme tu l'évoquais, ou voilà, bien que c'était une manière de passer à travers l'amour des uns et des autres, d'accéder dans l'expérience du sans forme, en fait.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Et en ouvrant notre cœur, au début, on peut ouvrir notre cœur à quelqu'un qui est un exemple pour nous. Donc, il y en a pour qui la nature elle-même est le gourou, un exemple de générosité. Amma cite souvent l'arbre. L'arbre, il nous donne de l'ombre. Il nous donne des fruits, il nous donne donc la fraîcheur, il transforme le carbone en oxygène. Donc la générosité de l'arbre, ça peut être déjà aussi une voie de dévotion à la nature, de voir combien on reçoit et en fait de canaliser son mental sur les bonnes choses, sur ce qui nous nourrit et ce qui ouvre le cœur. En fait, ça va nous aider à faire cette expérience-là de plus en plus et répandre cette expérience à toute la création dans différentes situations. Des situations où avant on n'aurait jamais vu l'amour. Et bien là, d'avoir entraîné son mental, son être à sentir l'amour, petit à petit, on va pouvoir l'étendre à toute la création.
Et quand tu parles de sentir l'amour, du coup, il s'agit de aimer et être aimé, les deux? Ou c'est aimer dans un
Oui.
sens?
Non, c'est les deux, ouais. Ça va dans tous les sens même. Même il y a peut-être plus de sens que ça d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est aussi recevoir, quoi. On nous dit souvent, même dans la Bible, ils nous disent, soyez une coupe pour recevoir. Donc c'est ça. Et c'est une fois que cette coupe-là est pleine, qu'elle va pouvoir donner en abondance. Elle n'a plus besoin de rien pour elle. Elle est déjà pleine. Donc là, c'est qu'un jaillissement continue dans toutes les directions et sans compter.
Et c'est-à-dire que si la coupe, elle devient pleine à un moment, c'est-à-dire qu'elle peut être crue comme pas pleine à un autre moment, et que lorsqu'elle n'est pas
C'est
pleine,
ça.
c'est difficile de pouvoir regarder autre chose que son petit nombril.
C'est ça. C'est ça. C'est qu'au début, on a besoin de remplir pour pouvoir rejaillir. Moi, personnellement, ça a été comme ça pendant longtemps. J'ai cru au vide. Mais le vide manque, en fait. Le vide manque souffrance. Et il m'a fallu, voilà, tout ce processus pour venir sentir combien, en fait, le vide n'est rien d'autre que le plein. Sous un autre aspect, c'est une vue de l'esprit, c'est une impasse du mental qui croit que les choses sont séparées les unes des autres, qu'il y a des fois du vide, des fois du plein, mais que en fait cette source, elle est partout en tout. Ama utilise aussi la métaphore dans les enseignements de l'Inde de la flûte. La flûte a besoin d'être libre pour pouvoir laisser passer le souffle divin et jouer sa mélodie à travers. Voilà. C'est une belle métaphore, j'aime beaucoup parce qu'on est tous ces flûtes-là et on peut laisser tous passer cette mélodie, ce souffle divin pour chanter notre propre mélodie.
Oui, du coup, par rapport à quand tu évoquais tout à l'heure les voies directes, il y a de la voie de la connaissance, on pourrait dire, qui est la voie de l'investigation. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. N'est-il, etc. La voie d'amour, au contraire, c'est de reconnaître que tout est Dieu, que tout est amour, que tout est là, et que c'est une voie voilà, c'est une voie pleine, plus qu'une voie du vide. Est-ce que ça te parle, si je pose ces mots-là?
Ça me parle, mais après, j'exclus pas le reste parce que il y a aussi l'expérience du vide, en fait, comme disait Nisargadatta, quand je suis rien, c'est la sagesse, et quand je suis tout, c'est l'amour, et ma vie s'écoule entre les deux. Donc, même dans la voie de la dévotion, on peut se sentir ce vide. C'est justement dans la dévotion, il y a beaucoup de bhajans chantés à Krishna où les gopis se morfondent réellement de ne pas avoir leur amoureux, leur Krishna tant aimé qui irradie comme ça, qui joue avec elles. Elles se morfondent et elles sentent le feu de la séparation intensément. Et chez moi, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est aussi ce qui s'est passé en apparence chez Ama dans sa sadhana. C'était de sentir le feu de la séparation, donc du vide, pour aller au fond du fond du fond du fond pour voir qu'au fond du fond du fond du fond, il y a ce tout-là, justement. Donc des fois, c'est nécessaire de passer par le vide pour trouver le plein. Et vice-versa, on peut être plein, 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 plein et aller au-delà et voir que tout ça, n'est rien non plus, quoi.
Du coup, c'est le sutra du cœur, le vide et le plein. Le vide,
Ah oui.
la forme et la non-forme, c'est la même chose. C'est le sutra du
Ah.
cœur dans le bouddhisme, qui est du coup un sutra central. Et tu parlais du coup de bhajan tout à l'heure, donc les bhajans qui sont des
Oui,
chants
c'est vrai, c'est
dévotionnels.
ça.
Comment s'articule la pratique dans la chambre de la dévotion selon la manière dont toi tu vis la dévotion?
Ah bah après, ça dépend des moments. C'est passé par plein de phases. Bah là, la dévotion, c'est de faire du seva, donc de travailler, que ce soit en Inde ou en France. C'est servir, en fait, servir la création, le créateur et la création qui sont un. Et c'est sourire, c'est aimer, c'est voir là où il y a encore des vasanas, donc des résidus d'illusions de séparation, donc de non-amour, parce que ben c'est pas toujours tout nickel d'un coup comme ça. Il y a des fois des petites tendances qui remontent, et c'est sourire à tout ça. Moi, j'aime beaucoup parce qu'à l'ashram Dhamma, justement, c'est un très bon endroit où c'est comme si elle tournait un peu le bouton un peu plus fort pour voir un peu plus encore ce qui reste à voir et à aimer. Et donc, on voit clairement le jeu, la lila, la maya qui sont à l'œuvre. Et c'est très rigolo parce que c'est comme une pièce de théâtre pour moi de voir tous ces jeux-là qui se créent. Et j'aime beaucoup. Là où avant, il y aurait eu culpabilité, drame, histoire, patati patata, maintenant il y a du sourire, il y a du rire, et puis vraiment comme un jeu, quoi. Alors, comment ça se vit? Sinon, il y a plein de possibilités. Moi, c'est ce que j'aime à l'ashram Dhamma, c'est qu'il y a plein de possibilités d'être dévoué vers ce soi tout le temps, en fait. C'est plus facile à l'ashram d'être tourné vers le soi, que dans le monde ordinaire, ça, on est bien d'accord.
Et pourquoi ça?
Pourquoi ça? Ben déjà, il y a une atmosphère, comme dit Amma, je la cite beaucoup, hein, normal, c'est le sujet. Voilà, quand on visite une entreprise de parfum, même si on ne touche aucun parfum, il restera des résidus de parfum sur nos vêtements, dans nos cheveux, sur notre peau. De la même façon, si on visite une entreprise de charbon, même si on ne touche à rien, on va ressortir avec des morceaux de charbon, des particules de charbon sur nos vêtements, sur notre peau. Et donc, l'influence de l'environnement a un effet sur ce que l'on est, mais dans le manifesté, on est d'accord. Ça n'atteint pas le soi, on est bien d'accord. Mais des fois, il y a besoin comme ça, et puis ça peut être un jeu aussi, hein. Moi, franchement, c'est par plaisir, quoi. Là, il n'y a pas de recherche, c'est par plaisir que je suis là. C'est, ouais, pur plaisir. Parce que c'est bon de partager ça aussi. Tu vois, c'est génial. Moi, je trouve qu'en France, la non-dualité a pris toute cette place, de pouvoir partager tout ça. Mais c'est génial aussi de le vivre en concret dans une communauté où on mange ensemble, on chante ensemble le soir, on fait des pratiques ensemble, comme du yoga ou des récitations, et on fait du travail ensemble. Et ça, ouais, j'aime beaucoup. Et il y a même aussi des enseignements sur l'Advaita Vedanta, donc la non-dualité indienne. Il y a tout un tas de choses, quoi.
Et ça, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure en intro. Tu disais que parfois c'était incompris par les gens qui avaient des pratiques non-duelles, enfin, qui, pas une pratique non-duelle, mais qui avaient un état d'esprit ou une voie non-duelle qui c'était leur manière à eux d'entrer dans la connaissance. Et tu disais que c'était pas forcément compris la dévotion. Est-ce que tu pourrais en dire plus?
Oui, il y a une croyance, je pense, des fois. En tout cas, moi, j'ai rencontré ça là dans mon voyage, des personnes qui croient que quand on a réalisé le soi ou quand on a eu des expériences d'éveil, tout ça, on n'a plus besoin de la dévotion. Apparemment, pour certaines personnes, la dévotion ne serait qu'un chemin. Mais on peut rester dans dans ce plaisir, cette joie de vivre ça, même sans recherche après. Et du coup, oui, c'est possible de rester dans une dévotion apparente, bah juste pour jouer le jeu de la vie, comme il est dit, hein, avant on fait la vaisselle, on coupe du bois, on va chercher de l'eau, après on fait la vaisselle, on coupe du bois, on va chercher de l'eau, et on peut tout à fait profiter de cette ambiance-là, si ça résonne chez nous, bien sûr.
Est-ce que dans ce que tu dis, peut-être que j'essaye de pour bien resituer un petit peu, tu disais que les personnes ne comprenaient pas que à un certain moment, que la dévotion soit encore au centre de la pratique spirituelle, puisqu'elle n'aurait soi-disant pas de raison d'être. C'est ça que tu voulais dire? Dans la non-compréhension, on va dire, de cet aspect, ça crée une dualité de créer de la dévotion.
Oui, voilà, c'est ça. Pour ces personnes-là, la dévotion n'est pas compréhensible dans la non-dualité parce que c'est la dévotion vers quelque chose, quelqu'un. Et donc, ils ne voient pas l'intérêt parce qu'ils recherchent le 1. Ils ne voient pas l'intérêt de passer par un objet pour y accéder. Et alors que en fait, voilà, c'est là tout le chemin de la dévotion, c'est de s'immerger en fait, de fusionner. Par exemple, dans les bhajans que l'on chante le soir, bah là, il y a personne qui travaille à cette heure-là, quasiment. On est tous au repos. C'est entre 6, 7 heures et 8 heures du soir. Et là, on est tous tournés vers la divinité, en fait, ce qui nous relie. Donc là, en l'occurrence, c'est à Amma. Et les chants sont à la mère divine, à Krishna, à Shiva, à Ganesh. Comme ça, il y a la diversité. Et là, on sent vraiment que tous les cœurs sont tournés vers une seule et même direction. Et là, c'est possible même concrètement de sentir cette unité avec d'autres humains. Donc ça permet vraiment d'ouvrir le cœur et il se passe vraiment des belles choses. C'est du monde phénoménal, on est d'accord. Mais ça tend à montrer cette unité sous-jacente dans le quotidien, dans le vécu. Et il y a beaucoup de gens qui sont bouleversés par ces chants-là, quoi, qui pleurent. Et ça, c'est aussi l'ouverture du cœur, quoi. Quand il y a la dévotion, il y a des pleurs. Amma dit, une méditation intense avec des pleurs, même si c'est 1 minute, ça équivaut à 1 heure de méditation. D'efforts de méditation, juste d'avoir ces pleurs de dévotion-là, ça équivaut à 1 heure de méditation. Parce que voilà, là, l'expérience, elle est concrète. Donc, ces bhajans, c'est la pratique que tout le monde aime. Parce que bah, déjà, on a travaillé toute la journée, tout ça, machin. On se repose enfin. Et on est tous pointés vers la même direction, une divinité. Donc là, en l'occurrence, à l'ashram d'Amma, c'est Amma. Mais les chants sont autant à la mère divine qu'à Shiva, qu'à Krishna, qu'à Ganesh, etc. Et là, en fait, c'est le moment où, comme dit Amma aussi, les chants font taire le mental parce que le mental est dirigé vers une pratique, donc il est concentré. Et donc là, le mental peut se déposer et le cœur s'ouvrir. Et ça permet comme ça, de chanter tous ensemble, de sentir vraiment cette unité. Alors c'est une expérience incarnée, on est d'accord, mais ça pointe vers cette unité que l'on est tous, qui est le fondement même de tout cela. Et donc ça, quand on est en recherche, ça pointe vers ça. C'est un moment où on peut percevoir cela, comme quand on nous demande quand on se demande quelle sera ma prochaine pensée, il y a un moment de silence, un moment, un espace comme ça qui nous fait goûter cela. Et dans ces bhajans-là, c'est un peu ce qui se passe. Le mental se tait, il est occupé à une activité, donc, et le cœur peut s'exprimer. Voilà. Et c'est vraiment une belle pratique qui nous réunit tous, qui peut amener donc les larmes comme ça. Et Ama dit que verser des larmes pendant la méditation ou pendant les bhajans, ça équivaut à 1 heure de méditation intense. Voilà, c'est une voie vraiment directe pour toucher, pour se laisser traverser justement, se laisser traverser par cette présence.
Est-ce que le fait de pas de dévotion, est-ce que si je te parle d'abandon, au final, de s'abandonner totalement à, on va dire, je sais pas, à ce qui est plus grand que soi, est-ce que c'est pas justement la finalité? On parle de surrender quand on n'a pas vraiment d'équivalent en français de surrender. On pourrait dire se rendre, voilà, mais c'est pas exactement la force du mot en anglais surrender. Est-ce que s'abandonner totalement, de cesser quelque part de lutter, n'est pas la finalité de cette voie du cœur, au final, de cette voie de l'abandon?
Exactement, tu as tout dit, Benjamin. Je te remercie de parler de ça. Surrender, c'est un mot qui est très cher à mon cœur et en effet qui n'a pas d'équivalent en français. C'est se rendre, mais par amour, pas par dépit. Et c'est s'en remettre totalement. Donc, c'est laisser en effet ce flux de vie, cette présence totale nous traverser comme dans la flûte, quoi. Laisser cela nous traverser, faire son œuvre telle qu'elle le veut parce que. Notre mental ne peut pas appréhender ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, alors que la vie, elle sait très bien ce qu'elle fait. Comme dirait Pierre Le Réguillemet, l'oiseau fait son nid sans pourquoi. Il le fait, c'est tout, quoi. Et on laisse cette énergie de vie se faire, quoi. C'est ça qui est beau et qui est bon. En effet, comme tu dis très bien, il n'y a plus de résistance, il y a que la vie à l'œuvre. Et c'est là où on peut vraiment goûter la joie, quoi, parce qu'il y a plus quelqu'un pour faire ou pour agir ou pour porter la raison du pourquoi, du comment. Tout ça, c'est mis de côté. Il n'y a que le goûter de ce qui est proposé. Bien, des fois, au menu, comme ici, j'aime beaucoup ça. On n'a pas à réfléchir. 10 000 fois, qu'est-ce que je vais faire à manger? Il y a un menu, on a le droit de choisir entre tel plat ou tel plat. Mais le but, c'est pas d'être complètement satisfait dans les sens. C'est de vivre ce qu'il y a à vivre et puis d'observer et de laisser danser tout ça, comme les feuilles au vent, comme les vagues sur la plage.
Merci Nelly. Est-ce que tu trouves que parfois les personnes qui sont dans une démarche non duelle retrouvent à dire à plusieurs choses? Parce que j'ai senti plusieurs fois quand je te posais des questions comme si tout d'un coup ça disait oui, mais du coup, comme s'il y avait besoin d'une justification à devoir le faire parce que oui, bah, c'est de la dualité ou c'est comme ça. Comme si les personnes qui avaient une tendance, on va dire, à dans une observation, etc., reprenaient un peu tous les mots, voulaient à tout le monde trouver le sens, etc. Et que du coup, il y a une sorte de trouver une légitimité en termes de suivre une voie de la dévotion. Dans le sens où de plonger pleinement dans l'expérience personnelle au-delà des concepts au final spirituels que pourraient prôner, on va dire, des voies de l'ordre de l'Advaita.
Ouais, alors c'est vrai que bah moi c'est la voie que j'aime parce que je la suis et que j'y trouve mon compte. Après c'est OK, je pense qu'il y a des impasses un peu dans toutes les voies aussi. Il y a des impasses donc dans la voie de la connaissance. En effet, ce serait de devenir un perroquet, de réciter une leçon apprise et que ça n'ait rien de concret dans notre vie, quoi, que ça ne change rien. Là, la voie de la dévotion, quand même, ce que ça a de concret, c'est qu'après, enfin, en tout cas, je parle pour moi, en intégrant l'amour, bah, après, ça rejaillit dans le quotidien. C'est-à-dire que si quelqu'un me parle mal, eh ben, ça va réagir moins facilement, quoi, parce que j'aurais développé cette attitude du cœur. Et aussi, ce que disait quelqu'un récemment, c'est que dans la voie de la dévotion, en effet, encore une fois, comme tu disais, c'est de l'expérience concrète, c'est-à-dire que les écrits sont valables pour des temps donnés. Et là, d'avoir un maître, un mahatma, une grande âme, comme on dit, ou un gourou, celui qui amène de l'ombre, de l'obscurité à la lumière, eh bien, ça va être vécu concrètement dans chaque domaine de la vie. À chaque instant, on va amener cette lumière de la présence par plein de petites circonstances, tout ça. Et alors que bah, ce sera, ça peut, en tout cas, pas forcément, hein, il n'y a pas de règle, mais de mon expérience, bien sûr. Alors que les écrits, on voit bien, en fait, les écrits sont faits pour un temps donné, pour certaines populations, donc le Coran pour une certaine période, la Bible pour une certaine période. Là, la chance d'avoir un Mahatma auprès de soi, c'est vivre les écritures dans chaque action du quotidien. Donc, c'est une expérience pour moi très directe. Ah, mais après, je sais, j'adore hein, les livres et tout ça, toutes les écritures. J'ai vécu aussi des grandes expériences de dévotion aussi, par exemple, avec l'autobiographie d'un yogi, au début, qui était aussi. Je vivais concrètement l'enseignement, par exemple, de ce livre-là. Il se passait vraiment des choses, quoi. J'avais la sensation qu'il était là et que je pouvais lui parler.
Autobiographie d'un yogi de Yogananda.
Ouais, tout à fait. Ouais, on peut vivre des choses extraordinaires aussi avec les livres. Et voilà, que ce soit vécu, quoi. Bon, après, chacun.
Est-ce que on peut dire que enfin, c'est quelque chose que moi j'ai ressenti aussi à travers les échanges. Tu vois, par exemple, tu dis que gourou, c'est un mot galvaudé qui fait peur, notamment en Occident. Et du coup, c'est plus la dévotion qui fait peur au final. Et en quoi ça fait peur pour toi la dévotion à l'occidentale telle qu'elle est imaginée, on va dire? Qu'est-ce qui fait peur?
Ouais, c'est cette notion d'être manipulé, d'être instrumentalisé et de ne plus avoir de libre arbitre, de volonté personnelle. Donc ça fait peur de devenir un objet, un robot, alors qu'on est déjà des robots de notre conditionnement occidental. On est déjà complètement manipulé, on est conditionné. Le cerveau et tout ça est formaté à fonctionner d'une certaine façon. Comme quand j'étais jeune, j'avais réfléchi sur la voie, les bouddhistes. Voilà, qui vont à l'école bouddhiste dès 3 ans. Et je me disais, mais c'est du formatage, quoi. Oui, mais c'est du formatage. Pourquoi? Pour trouver la libération. Alors, c'est ça. Est-ce qu'on veut être formaté à consommer ou est-ce qu'on veut être formaté à aimer? Chacun choisit. Hein. On peut choisir tout. Puis on peut passer de l'un à l'autre. Hein. C'est aussi une voie que tout essayer. Hein. On dit bien, il y a plusieurs chemins sur la montagne, mais le sommet, il y en a un. Donc, tout est OK.
Et cette peur du formatage aussi, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des personnes qui ont clairement abusé, on va dire, de la dévotion des uns et des autres. Peu importe quelque part ce que l'humain fait, au final, la dévotion, que ce soit de la dévotion entre quelqu'un qui abuse ou quelqu'un qui n'abuse pas, ça reste la même au final. Et c'est elle qui est importante, peut-être.
Vas-y, répète.
Bah, par exemple, si tu as de la dévotion envers quelqu'un qui abuse et quelqu'un qui n'abuse pas, au final, la dévotion, peut-être ça ne fait pas la même chose, mais je veux dire, la dévotion elle-même fait la même chose.
Ouais. Ouais. Il y a une personne qui en parle bien, ça aussi, qui a été influencée par un mauvais gourou, mais finalement, elle se rend compte que ça a été une bénédiction pour elle parce qu'elle a énormément appris. Et on peut se réaliser auprès de maîtres pas réalisés. Si on a la foi et qu'on y croit, ben on peut tout à fait se réaliser. Et au-delà de ça, justement, voilà, le chemin que ça peut prendre, c'est que de rencontrer des faux gourous et de tomber, enfin, peut-être dans ce piège-là, c'est d'apprendre à un moment donné le discernement. Et trouver le gourou, parce que l'ultime gourou, il est à l'intérieur de soi, en fait. Voilà, c'est la vie elle-même. Et c'est ça, c'est d'apprendre à écouter ce gourou intérieur. Et Ama nous parle beaucoup de ce discernement. C'est-à-dire qu'ici, à l'ashram, ça fait longtemps que je viens, il y avait beaucoup de dévotion et d'observation stricte. Et petit à petit, je vois tout le monde grandir en sagesse, vieillir avec des cheveux blancs, mais grandir en sagesse. Donc, en fait, les corps vieillissent, mais la lumière grandit. C'est extraordinaire de voir ça. Et aussi les pratiques s'assouplir parce que le cœur s'ouvre petit à petit. Et donc chacun peut faire l'expérience de trouver plus de discernement entre ce qui est dit qu'il faut faire et comment ça se met en place. Donc c'est ça en fait, c'est le gourou intérieur. Quelqu'un peut faire quelque chose qu'il faut pas faire, mais elle le fait pour le bien. Par exemple, justement, elle cite une histoire comme ça dans les enseignements. C'est dans le Ramayana, il me semble. Donc il y a le frère de Rama ou quelqu'un comme ça, je me rappelle plus exactement. Qui est sur le trône comme ça, et quelqu'un vient lui exposer ses problèmes. Il a des problèmes d'argent, tout ça, et il a du mal. Et donc là, donc le Seigneur, je sais plus comment il s'appelle, il prend le sac d'or de sa main gauche et il le donne avec la main gauche, ce qui est pas bien en Inde de donner avec la main gauche, à cette personne-là. Et là, le Seigneur Rama lui dit, mais tu sais que c'est pas bien de donner avec la main gauche, pourquoi tu l'as fait? Et là, il dit tout simplement, parce que dans cet élan de donner, si j'avais pris le temps de passer le sac de ma main gauche à ma main droite, peut-être mon mental m'aurait dit de ne pas le faire. Donc, j'ai préféré donner avec ma main gauche, comme ça, j'étais sûre que ce sac d'or allait lui revenir et qu'il pourrait soulager ses problèmes avec ça. Voilà, donc, des fois, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais le gourou intérieur, la sagesse intérieure, l'amour, va amener à faire des choses comme ça. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. Ça demande vraiment un discernement de savoir à quel moment, quoi, quand ou comment. Et c'est, il y a que cette qualité de présence-là qui, parce que ça se fait tout seul. Voilà. Le mental vient pas,
Est-ce que la dévotion, ça doit, par exemple, tu parlais d'un gourou tout à l'heure, est-ce que la dévotion, c'est forcément envers une personne ou ça peut être plus envers l'image que l'on a d'une personne ou la présence d'une personne?
Tout à fait, tout à fait. Tout peut être gourou, hein. Le ciel, un oiseau, une araignée qui fait sa toile, l'arbre. Voilà. Donc il y en a, c'est Mère Teresa. Il y en a, c'est le Dalai Lama. Voilà. Il y a Saint François, il y a Jésus. Et puis ça peut être une grand-mère qui nous a appris la générosité ou à prendre soin des animaux. Ça peut être un enseignant d'école qui nous a enseigné telle ou telle chose et qui a été pour nous un exemple, je sais pas moi, de sagesse ou de justesse. Et en fait, et en ça, c'est ça, on en parle aussi beaucoup, c'est que tout peut être gourou, quoi, vraiment. Même notre voisin qui râle après, il est là pour nous enseigner à avoir plus de discernement sur la limite de chacun. La vie, en fait, c'est un gourou.
Donc même les faux gourous.
Même les faux gourous, même si ça passe par des expériences triviales, difficiles, au fond, comme on dit, ce qui ne tue pas renforce. Et puis. Donc, si on décide de s'en servir comme un tremplin, c'est génial. L'impasse, ce serait de rester sur une position de victime, et là, on n'apprend rien du tout, quoi. Jusqu'au jour où on en aura marre d'être victime et on se dira, bon, est-ce que je peux pas voir un peu les choses d'une autre façon pour avancer, quoi. J'aimais bien, j'avais un prof qui disait, les croyances, c'est comme les chemises, il faut les changer avant qu'elles soient sales. Donc, pas rester sur des croyances figées, mais réviser toujours nos croyances. Est-ce qu'elles me servent dans mon quotidien? Est-ce que ça m'apporte du bonheur de croire ça? Ou est-ce que ça me limite?
Merci, merci. Et si des personnes, je ne sais pas, imaginons qu'elles sont à l'écoute de cet épisode, se disent, tiens, et si j'avais envie d'aller explorer plus la voie de la dévotion, qu'est-ce que je peux faire?
Bah déjà, aller vers ce qui nous ouvre le cœur. Et voir cette expansion du cœur, voilà, qu'est-ce que ça fait. Voilà, les pratiques aussi qui aident à se détendre et à ouvrir le cœur, tout ça, tout simplement. Et explorer, pas hésiter à faire marche arrière si ça convient pas. Des fois, c'est bon aussi de persister un peu plus, d'aller voir au-delà de la difficulté, mais surtout, il faut écouter son cœur. C'est le gourou intérieur, quoi.
Merci Nelly, merci. Si des personnes ont envie de partager, de parler avec toi de dévotion, est-ce qu'ils peuvent te contacter?
Ouais. Y a Facebook, donc Dipti Nelly.
Ok, ça marche. Et ben, si vous voulez contacter Nelly, sur Dipti Nelly sur Facebook, donc Dipti, c'est DEEPTHI Nelly.
C'est
Avec un
ça.
Y. Merci Nelly, je te souhaite un bon voyage.
Merci, je suis heureuse de partager ces belles énergies avec toi et avec vous tous. C'est une grande joie. Merci, Benjamin.
Merci, à très vite. Ciao.
À bientôt. Bonjour.
Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez pu apprécier la qualité de cet épisode. Retrouvez dès à présent l'émission L'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Partagez cet épisode, commentez, faites-moi le maximum de retours, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées d'émissions, de sujets, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message sur les mêmes réseaux sur lesquels je pourrai vous répondre. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez également faire un don financier via la plateforme Tipeee qui va permettre de pouvoir faire tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est soutenu financièrement, continuer, donner du temps, mettre de l'argent dans du matériel et faire tout ce qui est cool avec du soutien. Vous avez toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à savourer pendant quelques instants cette verticalité. Ciao.